7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Michael.
Et l'Afrique encore, puisque vous êtes de retour d'un reportage en Ouganda, pour nous parler ce soir d'une crise qui dure depuis 2013, et une crise qui passe, Olivier, presque inaperçue.
Et depuis 4 ans, chaque jour, en Ouganda, Michael, l'Ouganda ouvre ses portes à des milliers de réfugiés sud-soudanais. Au total, ils sont près d'un million répartis dans les camps qui s'étendent sur toute la région nord du pays. La moitié de cette population a franchi la frontière en seulement 8 mois, depuis début juillet 2016.
Date à laquelle les combats ont redoublé d'intensité au Soudan du Sud.
Et ces civils se retrouvent en fait pris dans un conflit entre l'actuel président Salva Kiir, qui appartient à l'ethnie Dinka, et qui s'oppose violemment à son ancien vice-président, aujourd'hui exilé, Riek Machar, leader du peuple Nuer. Deux camps donc, mais sur le terrain, Michael, tout semble beaucoup plus compliqué. Une multitude de clans, de groupes armés, tentent de tirer profit de l'instabilité du pays et se livrent aux pires atrocités. Chaque témoignage que nous avons pu recueillir donne une idée assez précise de ce que ces gens peuvent vivre. Quand nous avons rencontré Grace, elle venait de franchir la frontière avec son bébé.
J'ai perdu mon mari. Maintenant, il n'y a plus personne pour s'occuper de moi. Je suis seule. Je suis venue seule, juste avec mon bébé. Mon autre fils a été tué aussi. Sur le chemin, on a rencontré ces gens. Ils nous ont dit de leur donner tout ce qu'on avait, mais on n'avait rien. Donc ils ont décidé de prendre les jeunes enfants. On s'est mis à courir. Je ne me suis pas aperçue que mon fils était derrière moi. Et il a été tué. Deux jours après, on est revenu. J'ai juste récupéré sa tête. Son corps n'était plus là.
Dans cette région, celle de la ville de Yei, au sud-ouest du pays, les réfugiés mettent clairement en cause les forces gouvernementales qui les chassent de leurs terres, pillent et détruisent absolument tout sur leur passage, comme le décrit Hélène, cette mère de famille.
C'est arrivé la semaine dernière, avec tous mes enfants. Ils nous ont enfermés à l'intérieur et ils ont mis le feu. Ils ont brûlé ma maison. Tout est brûlé. On était tous dedans. On s'est mis à crier. Les enfants pleuraient. C'est les voisins qui nous ont libérés en cassant une fenêtre.
Voilà, ces réfugiés sud-soudanais arrivent donc traumatisés et terriblement affaiblis. Certains ont parfois passé plusieurs jours dans la brousse en ne se nourrissant que de racines et de graines.
Et les Nations Unies et le gouvernement sud-soudanais, Olivier, évoquent des populations touchées par la famine. C'est ce que vous avez constaté sur place.
Alors, à cet endroit précis, non. La famine a été localisée plus au nord, à l'intérieur du Soudan du Sud. Ces populations sont aujourd'hui prises au piège et dans l'incapacité de franchir les zones de combat. Mais les humanitaires comme Rika, qui coordonne l'aide pour le Haut Commissariat aux réfugiés dans le camp où nous étions, ces humanitaires s'attendent à accueillir des réfugiés de plus en plus faibles.
La famine, on ne le sent pas encore. C'est-à-dire que c'est dans les régions plus au nord de Soudan du Sud. C'est juste plus difficile pour eux, les populations qui ont de la famine, de passer vers nous. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Ou soit ils passent vers le Soudan. Donc il y a un différent flux là-bas, mais je pense que dans quelques semaines, on va vraiment sentir la différence dans la population. On attend de voir de plus en plus des effets de la famine.
Les Nations Unies considèrent que plus de 6 millions de personnes de Sud-Soudanais pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire dans les semaines à venir.
Ouais, chiffre qui pourrait évidemment effrayer le voisin ougandais. Et pourtant, il est hors de question pour l'Ouganda de fermer ses frontières.
Absolument, ce pays doit faire face à la troisième crise migratoire la plus importante au monde après la Syrie et l'Afghanistan, mais les portes restent ouvertes. Et l'Ouganda a même développé une politique d'accueil que l'on retrouve nulle part ailleurs. En fait, cette politique, c'est Charlie Yaxley, le porte-parole du HCR, qui nous en parle.
L'Ouganda a une approche très progressiste de l'aide aux réfugiés. Il leur donne des terres, de quoi construire leurs maisons et donc la possibilité de cultiver. Les réfugiés ont ici un permis de travail et l'opportunité d'ouvrir un commerce. Il faut savoir qu'une grande partie des terres a aussi été offerte par les Ougandais eux-mêmes. Mais il est clair que ce pays ne pourra pas mettre fin à cette crise tout seul. L'aide humanitaire est ici absolument cruciale pour soutenir cette initiative, pour protéger les réfugiés et faire en sorte qu'elle n'échoue pas.
Alors l'Ouganda ne serait pas loin du point de rupture, mais c'est le passé de cette région d'Afrique de l'Est qui conduit aujourd'hui le commissaire aux réfugiés ougandais, David Kazungu, à maintenir cette politique de solidarité.
Malheureusement, nous avons notre histoire. Beaucoup de nos compatriotes se sont déjà retrouvés en situation de demandeurs d'asile, d'exilés ou de réfugiés politiques. Par exemple, la province de l'ouest du Nil reçoit aujourd'hui des Sud-Soudanais. Mais un grand nombre de citoyens là-bas ont dû partir au Soudan, trouver refuge, quand l'Ouganda traversait une période trouble. Et tout ça a façonné l'esprit des Ougandais. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit Ubuntu. Si un frère est dans le besoin, vous devez l'aider.
C'est un discours assez rare de nos jours où la tendance serait plutôt de construire des murs pour faire face aux flux migratoires. Mais cette politique d'intégration ougandaise ne se fait pas non plus par pure philanthropie. C'est en tout cas l'avis du responsable régional du Médecins sans frontières, Jean-Luc Anglade.
L'Ouganda a un intérêt à développer des zones où il y a très peu d'activité, où il y a besoin de peupler des zones cultivables avec des populations qui font vivre une économie locale. Il y a aussi l'intérêt de bénéficier de ce que j'appelle l'industrie de l'aide, qui dit un camp de réfugiés dit beaucoup de services qui vont être mis en place, des emplois pour la communauté et des services qui vont être construits souvent avec l'aide internationale qui vont bénéficier aux populations locales et donc contribuer au développement des districts souvent un peu oubliés de l'État central. Donc il y a une sorte de situation un peu gagnant-gagnant. En tout cas, c'est une approche beaucoup plus ouverte que celle qu'on vit actuellement en Europe.
Voilà, étonnante, hein, politique d'accueil ougandaise, près d'un million de personnes donc à qui l'on donne une terre et un toit pour se reconstruire. Reportage que vous avez réalisé, Olivier, avec Gilles Gallinaro, et reportage que l'on peut retrouver en vidéo sur notre site à nous, franceinter.fr.
La sua ultima carta, François Fillon, la
Jean-Luc Mélenchon.
Ya saben que Marine Le Pen va passer à la seconde vuelta.
Avec Benoît Hamon.
La campagne vue d'ailleurs, comme chaque mardi, Olivier, on s'intéresse maintenant au regard que porte la presse internationale sur la présidentielle française.
Grâce au radar infaillible de notre confrère de l'hebdomadaire Courrier International qui attire notre attention sur la rencontre de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine vendredi dernier à Moscou, rencontre décrite comme l'apogée de sa visite par le site d'information pro-Kremlin Visliad, qui salue le joli coup tactique et stratégique de la candidate FN au moment où se déchaîne en France, nous dit-on, une hystérie anti-russe. Le correspondant du quotidien russe Commerçant tempère, lui, la portée de cette visite. Il précise qu'en Russie, personne ne croit à la victoire du FN, que cette rencontre était avant tout un moyen pour Poutine de prendre sa revanche sur François Hollande. Une poignée de main également commentée depuis les États-Unis où le site de Daily Beast relève plutôt que les interférences russes dans la campagne américaine l'an dernier étaient nettement plus subtiles.
Et la réunion de l'axe anti-européen a même titré le quotidien espagnol El Mundo. Olivier.
Un axe Poutine Le Pen en opposition au tandem Merkel-Macron, analyse le quotidien d'opposition moscovite Vedomosti en revenant sur la visite du candidat d'En Marche à Berlin. L'Allemagne, qui aussi par la voix du correspondant à Paris du quotidien Handelsblatt, nous livre quelques petits conseils. Selon lui, les Français doivent cesser d'être pessimistes. Cela les empêche d'entreprendre.
Un peu plus loin, à Singapour, Olivier, les programmes de nos candidats sont-ils armés pour séduire les entrepreneurs?
Mais vous le savez, François Hollande y était en visite hier, visite placée notamment sous le signe de l'innovation, un domaine dans lequel Singapour a beaucoup investi. Résultat, le secteur commence à décoller là-bas, phénomène que l'on ne retrouve pas chez nous, semble-t-il. Bonsoir Margot Bédé.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes notre correspondante à Singapour, vous avez pu échanger avec différents entrepreneurs sur place et vous avez fait ce constat, la France ne fait pas rêver.
Et pourtant sur le papier, la France est le meilleur écosystème pour les start-up. Nous avons le crédit d'impôt recherche, le statut jeune entreprise innovante, il permet aux PME qui engagent des dépenses de recherche et de développement de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Nous avons aussi la BPI, Banque publique d'investissement, qui accompagne les jeunes entreprises. Mmh. Et pourtant, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça le devrait. Les entrepreneurs étrangers ne se ruent pas sur notre territoire.
Alors comment l'explique-t-on ?
Eh bien, tout d'abord parce que les préjugés ont la peau dure. Je suis allée dans l'incubateur INSEADers à Singapour. Il accompagne des entrepreneurs, anciens élèves de l'INSEAD, business school implantée à Singapour, mais aussi en France. Sur place, j'ai pu rencontrer Jisun Min et Mugui Kim, de jeunes entrepreneurs coréens et japonais, et je leur ai posé une question. Pourquoi vous n'avez pas choisi la France pour monter votre société ?
Je pense que je ne suis pas physiquement capable de parler français. En fait, je veux dire que je ne peux aller sur aucun site internet pour avoir des informations. C'est juste une barrière psychologique que je ne peux pas franchir.
C'est un bon exemple, parce qu'en Asie, tous les gouvernements, notamment en Corée et au Japon, essayent vraiment de devenir des plateformes pour les entrepreneurs. Mais quand on regarde les deux nations qui ont réussi, Hong Kong et Singapour, c'est parce qu'ils parlent anglais.
Bon, c'est vrai que la langue anglaise est souvent une barrière hein, pour les Frenchies que nous sommes. Et il y a, semble-t-il, autre chose qui freine ces entrepreneurs.
Oui, évidemment, ça va au-delà de la barrière linguistique. La France a déployé d'importants moyens pour attirer les entrepreneurs étrangers, notamment à travers le French Tech Ticket qui offre 45 000 euros aux lauréats, plus 12 mois dans un incubateur français et une procédure accélérée et simplifiée pour un titre de séjour. Mais après ? C'est la question que se pose tout entrepreneur qui espère voir croître son entreprise. Nathan, 25 ans, vient de Hong Kong. Il entend monter une entreprise en France dans le domaine de l'art asiatique, mais il pense déjà à l'après.
Si on grandit suffisamment, oui, on envisagera sans doute de déménager quelque part. La structure du marché du travail est un problème ici. Par exemple, si vous souhaitez licencier quelqu'un, c'est très difficile à cause des différentes règles du droit du travail.
Et quand on grandit, on licencie ?
Bien sûr que non. On veut garder le plus de personnes possible, mais on ne sait jamais. On veut avoir la possibilité de le faire.
La France idéale pour monter son entreprise, moins pour la développer, si je comprends bien.
C'est plutôt bien résumé. J'en ai discuté avec Rani Saad, Libanais de 34 ans. Il conseille et accompagne les fondateurs de la start-up FlyOff, qui est dans l'industrie du voyage. L'entreprise a été créée en France en 2014. Elle est restée un an dans l'incubateur Paris & Co, qui lui a fourni locaux et conseils, et elle a reçu 30 000 euros de la Banque publique d'investissement. Ce montant a permis aux fondateurs de créer un premier prototype que certaines compagnies aériennes testent d'ores et déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pour autant se rémunérer. L'étape suivante est donc de lever de l'argent auprès de banques et investisseurs, une étape difficile à franchir.
Aujourd'hui, l'entreprise aimerait grandir, passer à l'étape suivante. Le challenge est le suivant. Quand vous avez un projet de start-up, vous pouvez passer plusieurs rounds d'investissement, A, B et C. Au premier round, en France, avec votre idée, vous obtiendrez peut-être 1 ou 2 millions d'euros. Si vous allez aux États-Unis, avec la même idée pour le premier round, vous pourrez lever 10 millions d'euros. Et je pense que c'est le challenge auquel font face les entrepreneurs en France.
Résultat, le fondateur de la start-up envisage de s'implanter aux États-Unis pour financer et développer son produit.
Et résultats peuvent mieux faire donc pour les candidats à la présidentielle française s'ils veulent attirer les entrepreneurs étrangers. C'est en tout cas le sentiment que l'on a à Singapour. Reportage signé Margot Bédé.
Merci beaucoup Olivier Pouge. À demain.